déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. La série s'intitule « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».
Chers amis, nous continuons donc notre méditation sur les passages importants, je dirais les nœuds de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle que cette église de Corinthe a été fondée par Paul lui-même, qu'il a une relation assez passionnelle avec cette communauté qui lui donne beaucoup de soucis, bien qu'il l'aime de tout son cœur. Cette deuxième lettre aux Corinthiens se situe dans une séquence d'événements un peu complexe. Il y aurait eu comme 4 lettres, dont 2 sont connues, et une visite importante où Paul a été comme blessé dans son autorité apostolique. Mais il y aura une autre lettre que nous ne connaissons pas, qui est entre la première et la deuxième lettre aux Corinthiens, qui sera assez sévère, mais qui sera accueillie avec humilité par la communauté de Corinthe. Tite, le compagnon de Paul, aura visité cette communauté à la suite de cette lettre correctrice, si on peut dire, et Tite fera donc le constat que cette communauté a pris en compte et s'est profondément repenti de cette mise en cause de sa doctrine et de son autorité, l'autorité, la doctrine de Paul. Donc la deuxième lettre aux Corinthiens arrive à ce moment où Paul sait que cette église qui lui est si chère a décidé de reprendre le bon chemin. Donc on voit dans cet écrit que Paul quand même souffle encore le chaud et le froid parce qu'il se réjouit de ces corrections, mais en même temps on sent qu'il a encore besoin de corriger certaines choses, de réaffirmer certains fondements. Le passage que nous allons lire maintenant, la deuxième lettre, le chapitre 3, les versets 1 à 6, se situe dans un ensemble plus large, un long développement sur le ministère apostolique qui est magnifique et qui s'étend du chapitre 2, verset 14, au chapitre 6, verset 10. C'est un passage assez important que certains exégètes, certains spécialistes de l'Écriture sainte, pensent que c'est le passage doctrinal essentiel de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Donc, réflexion sur le ministère apostolique de la Nouvelle Alliance. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un apôtre? Étymologiquement, le mot apôtre signifie envoyé. Souvent, je pose la question piège aux gens, aux fidèles, qui est le premier des apôtres, et en général, on me répond, Saint-Pierre. Mais en toute rigueur de terme, le premier des apôtres, c'est le Christ Jésus lui-même, c'est le premier envoyé. Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit-Saint. » Donc Jésus se montre lui-même comme le premier des apôtres et il veut prolonger cet envoi missionnaire dans ceux qu'il a choisis. Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est quelqu'un qui n'est pas à l'origine de sa mission et dont qui n'est pas l'auteur non plus dans son contenu. Paul le dit, c'est le premier verset du chapitre 1, il se désigne comme suit « Paul, apôtre du Christ, par la volonté de Dieu ». Donc, lisons ce passage du chapitre 3, versets 1 à 6. « Allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes, dit saint Paul, ou alors avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation qu'il faudrait vous présenter ou obtenir de vous? Notre lettre de recommandation, c'est vous, elle est écrite dans nos cœurs, et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas comme la loi sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. » Voyez cette magnifique exhortation de Paul à quelque chose de très touchant. Il parle au cœur, il parle du cœur. Mais il faut situer ce passage dans le contexte historique. C'est-à-dire que Paul a été confronté, dès la fondation de l'Église de Corinthe, à des prédicateurs judaïsants qui sont passés après lui, qui ont semé le trouble, comme chez les Galates. Ils ont semé le trouble à la fois au niveau doctrinal et au niveau de l'autorité de saint Paul. Voilà pourquoi, ici, il y a une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La crise judaïsante, qu'on pourrait l'appeler, est l'une des plus graves qu'ait connue l'Église primitive. Et elle a deux enjeux. Le premier, c'est la vérité du salut par Jésus-Christ et non par l'observance de la loi. Mais aussi, le deuxième, c'est l'universalité de l'Église, c'est-à-dire que les Juifs ne sont plus les seuls bénéficiaires de l'alliance de Dieu avec les hommes. Le Concile de Jérusalem a tranché sur cette question d'une manière très sage et très claire, et il a dit qu'il n'est pas nécessaire de se faire juif pour être disciple du Christ. Et Paul a des paroles très tranchantes sur cette question, notamment avec les Galates, où il écrit au chapitre 2, verset 21, « Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. » Un peu plus loin, au chapitre 5, verset 4, « Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. » Donc Paul est jaloux de cette liberté du chrétien, de ce salut par la grâce. Pourtant, lui était un juif plein de zèle, un juif observant, mais il a réalisé sur le chemin de Damas qu'il n'était pas sauvé par l'observance des 613 commandements, mais par le sang de Jésus-Christ. Il dira dans l'Épître aux Éphésiens, « Le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Et il dira aussi dans Galates, « Ma vie dans la chair, je la vis aujourd'hui dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Alors, cette lettre de recommandation, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une coutume juive, apparemment, dans le réseau, probablement, des synagogues juives du bassin méditerranéen. On avait comme ça des lettres de recommandation pour se protéger des faux prophètes. Mais Paul ne veut pas se plier à cette coutume. Il dit « Notre lettre, c'est vous. La seule existence de la communauté suffit pour légitimer son autorité. » Il fait un développement doctrinal très habile. Il oppose les tables de pierre à des tables de chair. Il oppose l'encre à l'esprit du Dieu vivant. Et il dit, cette lettre est connue et lue de tous les hommes. Ce qui n'est pas sans nous rappeler ce que Jésus dit à propos de l'Église en général. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous les hommes. Alors, ce développement très beau, cette dialectique entre la table de pierre, table de chair, entre l'encre et l'esprit du Dieu vivant, fait évidemment allusion à des passages capitaux de l'Ancien Testament, notamment dans Jérémie, au chapitre 31, versets 31 à 33, voici ce que nous lisons. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec eux. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et voici ce que nous lisons dans le prophète Ézéchiel au chapitre 36, versets 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et le soyez fidèles. » Donc pour Paul, c'est clair que ces prophéties s'accomplissent en Jésus-Christ et dans l'effusion de l'esprit. C'est par cela que ces paroles se réalisent pleinement. Paul continue donc en disant que cette capacité ou ce rôle d'apôtre ne lui vient pas d'une inspiration personnelle, mais que sa capacité vient de Dieu. Voici ce que nous lisons donc, chapitre 3, versets 4 à 6. « Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. » Donc chaque mot ici est important. D'abord, « ministre ». Ministre signifie être serviteur. Paul a conscience de sa faiblesse. Il a conscience qu'il a été choisi par grâce pour ce ministère. Il le dira même au chapitre 12 de cette lettre, « C'est lorsque je suis faible que je suis fort. » Il a reçu non seulement de Dieu la mission, mais la capacité de cette mission. Et il est ministre d'une nouvelle alliance. Alors, alliance, pour Paul, cela signifie, il expliquera au chapitre 5, que c'est le ministère de la réconciliation. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Ce n'est plus donc une alliance comme celle que Moïse a conclue avec Dieu au désert, mais quelque chose de plus radical, de plus profond, la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et cette alliance, elle est nouvelle et définitive. Elle avait été annoncée donc par les prophètes, on l'a vu tout à l'heure. Et Saint-Pierre, dans la première grande prédication chrétienne, le jour de la Pentecôte, citera le prophète Joël qui disait « En ces jours-là, donc en ces jours messianiques, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc ce n'est pas une alliance de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Il ne s'agit pas ici seulement de dénoncer une attitude formaliste ou légaliste. Paul montre que le Christ a engendré un nouveau régime spirituel. La loi était extérieure, elle n'avait que le pouvoir de montrer le péché, mais elle ne transforme pas l'homme, tandis que l'esprit, lui, pénètre et transforme le cœur de l'homme. Ce que disait le prophète Jérémie, « Je mettrai ma loi au fond de leur cœur. » Ou Ézéchiel, « Je mettrai en eux mon esprit, je leur donnerai un cœur nouveau. » Paul fera un long développement sur cette antithèse « mort et vie, loi et esprit » en montrant que la loi fait d'une certaine manière proliférer le péché, parce qu'il le montre, et que le péché engendre la mort. Mais dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, versets 1 et 2, Paul dit « Pour ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus de condamnation. La loi de l'Esprit qui donne la vie vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Donc il y a vraiment un changement d'économie. Ce n'est plus l'homme qui se rachète par ses bonnes œuvres, mais c'est Dieu qui l'a racheté en son Fils. Il n'y a plus de salaire ou de mérite, mais un don gratuit reçu par la foi. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. » Cela ne vient pas de vos œuvres afin que nulle chair n'aille se glorifier. Paul continue au verset 17 et 18, toujours de ce chapitre 3, à propos de l'Esprit-Saint. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. » Donc c'est au jour de la Pentecôte que se réalise ce changement de régime. Vous savez que le jour de la Pentecôte, dans la tradition juive, c'est la fête qui commémore le don de la loi de Dieu à Moïse au désert. Or, c'est justement le moment que Dieu a choisi pour la loi nouvelle, la loi de l'esprit. Le texte nous dit dans des Actes des Apôtres au chapitre 2 que « tous furent remplis de l'Esprit-Saint et se mirent à chanter les louanges de Dieu dans des langues différentes ». Et Paul prendra la parole pour dire « ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour recevoir le don de l'Esprit ». Nous poursuivons donc cette réflexion sur le ministère apostolique de la Nouvelle Alliance dans ce long développement qui s'étend des chapitres 2, verset 14 au chapitre 6, verset 10. Nous avançons maintenant au chapitre 4, où nous lisons un passage avec une expression qui est restée célèbre, celle du trésor dans des vases d'argile. Voici ce que nous lisons des versets 7 à 12. Paul dit donc, « Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. » Alors, Paul parle de ce trésor dans des vases d'argile. De quel trésor s'agit-il? Eh bien, certainement qu'il s'agit de l'Évangile. Il le dit un peu plus haut, verset 5. « Ce n'est pas nous que nous annonçons, mais le Christ Jésus lui-même. » Dans cette expression « trésor dans un vase d'argile », il y a comme un vif contraste entre la fragilité humaine et la puissance divine qui décide de l'habiter, un peu comme jadis le buisson ardent avait été brûlé par le feu divin sans être consumé. Paul a une éminente conscience, on l'a déjà dit, de sa fragilité, de son indignité. Il dit dans la première lettre à Timothée, au chapitre 1, versets 15 et 16, « Voici une parole digne de foi qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui en vue de la vie éternelle. » Donc Paul ici se montre clairement comme un exemple, mais un exemple de la miséricorde de Dieu. Il dit « C'est Dieu qui nous a rendus capables de cette nouvelle alliance, on l'a vu tout à l'heure. » Et il dira au chapitre 12, verset 9, « Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Voyez, il y a toujours chez saint Paul cette dynamique fondamentale de la gratuité et de la souveraine liberté de Dieu. Il ne s'agit pas, dira-t-il dans l'Épître aux Romains, de l'homme qui veut ou de l'homme qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Encore une fois, sur le chemin de Damas, Paul a été renversé par ce renversement de l'économie divine. Ce n'est plus l'homme qui devient juste par l'observance de la loi, mais qui est justifié par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Donc ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette puissance extraordinaire appartienne à Dieu et ne vient pas de nous. Rappelez-vous, quand il parle aux Corinthiens dans la première lettre, il dit « Je ne suis pas venu à vous avec l'éloquence de la sagesse, mais craintif et tout tremblant, je vous ai prêché le Messie crucifié, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je suis devenu donc craintif et tout tremblant. » Paul montre dans son expérience de détresse, de souffrance, combien il se modèle, combien il se configure au mystère pascal de son maître, le Seigneur. Nous avons dans ces paradoxes, pour chasser non abandonné, tracer non anéanti, etc., comme un écho des paradoxes des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les affligés, les persécutés, les assoiffés. Mais Jésus nous dit que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Nous avons un autre écho de cette situation presque pathétique de la condition apostolique. Voici ce que nous lisons au chapitre 6, versets 4 à 10, toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens. « Nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. » Donc, Paul dit « Nous portons toujours et partout en nous les souffrances de mort du Christ afin que la vie du Christ soit manifestée en vous, manifestée dans notre corps. » Ici, on touche sans doute à un autre thème important ou à un autre enjeu pastoral pour Paul. C'est celui de faire échec à un certain gnosticisme ou un certain dualisme, on pourrait même dire un spiritualisme qui a pu aussi s'insinuer dans la vie de l'Église de Corinthe par l'influence de ces spiritualités orientales et asiatiques qui sont très populaires dans cette région du bassin méditerranéen. À quoi sommes-nous confrontés? À une vision qui oppose le monde matériel au monde spirituel. Le monde matériel serait créé par le diable. Le monde spirituel serait celui de Dieu. Ces deux mondes seraient comme incompatibles. Et donc, on veut comme s'affranchir d'un Christ incarné et qui est mort pour choisir un Christ uniquement glorieux et tourner la page donc sur, au fond, tout l'aspect douloureux et obscur du mystère pascal. Mais Paul refuse de tomber dans le piège de ce dualisme. Il unifie les deux. Rappelez-vous ce qu'il dit à propos du baptême dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Il dit « Ignorez-vous que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisé, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, vous viviez vous aussi d'une vie nouvelle. » Donc la vie chrétienne est un plongeon dans la mort et la résurrection du Christ. C'est une union à son mystère pascal. Donc la vie et la mort de Jésus font partie de son expérience apostolique. Et donc il fait échec à cette tentation de désincarnation du christianisme. Pour lui, sa faiblesse, ses souffrances, ses angoisses et ses détresses sont une authentique manifestation de la vie de Jésus pour les Corinthiens. Et donc, Paul désigne sa propre chair comme phanérotée, dit le grec, comme épiphanie de Jésus. Jésus se manifeste dans la chair de Paul par ses nécroses étymologiquement de Jésus, c'est-à-dire ses souffrances de mort, mais aussi par la puissance de sa résurrection dans l'Esprit-Saint. Nous avons un écho également de cela dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24, où Paul dit « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Voyez, comme Paul a ce sens de l'incarnation, d'un Dieu qui s'est fait homme. « Dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Le Christ continue, prolonge son incarnation dans le mystère de l'Église. Il prolonge son mystère de mort et de résurrection. Donc, la mort fait son œuvre en nous, c'est-à-dire sans doute les apôtres, et la vie en vous. C'est au verset 11 et 12. « En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. » Voyez comment Paul déploie ce mystère extraordinaire, à la fois de la mort et de la résurrection du Christ, mais de la communion qu'il y a entre les apôtres et l'Église, entre le Christ et les membres de son corps. Il l'avait dit dès le départ, « Béni soit le Dieu et Père » qui nous console, car si les souffrances du Christ abondent, abonde aussi notre consolation. Quel mystère donc de communion entre le Christ et son Église, entre les apôtres et les fidèles. Donc cette mort en nous, dit Paul, et la vie en vous, nous rappelle ces douleurs de l'enfantement dont parle Jésus dans l'évangile de Jean. La femme est dans l'angoisse quand il vient le temps d'accoucher, mais elle est heureuse d'une vie nouvelle qui est arrivée. Paul dira aussi dans l'Épître aux Galates, à propos des fidèles de cette Église, « Vous que j'enfante dans la douleur. » Alors, et Paul continue, ou plutôt conclut ce passage dans les versets 15 à 18, « Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. » Donc vous voyez, cet aspect un peu douloureux, obscur, fructifie en fait dans l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Et il continue, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc on retrouve aussi un petit peu cette dialectique entre la loi sur des tables de pierre, une loi extérieure, et cette loi écrite avec l'esprit du Dieu vivant dans des cœurs de chair. C'est l'homme intérieur qui se renouvelle, même si l'homme extérieur est affecté par les souffrances de mort du Christ. Verset 17, « Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. » Et donc dans ces versets, Paul prend un virage ou s'oriente vers l'eschatologie. Il montre que ce mystère pascal va culminer dans la gloire de Dieu. Et verset 18, « Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Donc, tout à l'heure, dialectique entre l'extérieur et l'intérieur, ici entre le visible et l'invisible. Ce qui se passe visiblement a un terme dans l'invisible. Ce qui se passe dans la souffrance a un terme dans la gloire. Donc ce trésor qui est dans des vases d'argile, c'est cette promesse de gloire qui nous est faite de vivre un jour avec le Christ ressuscité. C'est ce qu'il dit en amont de ce passage, au verset 13 et 14. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. » Voyez donc, encore une fois, Paul veut montrer l'horizon eschatologique de tout ce cheminement avec le Christ dans l'Église, ce trésor, cette promesse de gloire dans des vases d'argile, dans une chair semblable à celle du Christ qui a souffert en raison de sa faiblesse, mais qui a été ressuscité par la puissance de Dieu. Cela s'achèvera quand ressuscités avec le Christ, nous serons placés près de lui avec vous. Amen.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, dans une série intitulée « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».